Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez toutes oui, non ?
Non.
Aujourd'hui, deux nouvelles de Zoé Valdès, extraites du recueil Trafiquant de beauté.
Juana la folle.
Juana s'éveilla avec une envie folle de se faire tirer le portrait.
Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas eu une jolie photo d'elle.
Même une simple photo d'identité.
Cette nuit-là, elle avait rêvé que dans le parc central, un photographe ambulant tirait un ravissant cliché de sa personne. Avec l'un de ses appareils anciens, à l'intérieur desquels il faut quasiment se glisser tout entier.
Elle ignorait le pourquoi de cette subite démangeaison de se faire photographier.
Il y avait plus de 20 ans qu'elle avait mis les pieds dans un studio. Depuis l'époque où elle avait dû renouveler sa carte d'identité.
Par la suite, elle n'avait plus jamais eu besoin de photos pour des papiers. Ni même de papier, d'ailleurs.
Soudain, à cause d'un rêve, elle eut le désir d'observer son visage imprimé sur du carton mat ou brillant, noir et blanc, ou en couleur, peu lui importait.
Il était devenu urgent qu'elle se voie comme les autres la voyaient.
Elle était sujette à ce genre de caprices.
Sa mère la tensait continuellement.
« Juanita, ma chérie, pourquoi tu réclames l'impossible ? Pourquoi tu demandes la lune et pas le soleil, ma chérie ? Ici, on a du soleil à revendre !»
Mais Juana est ainsi faite et on n'y peut rien.
Il avait fallu qu'elle eût une idée fixe pareille, juste au moment où aucun photographe havanais ne disposait plus de papier ni de produits chimiques, ni même de pellicules.
Des appareils, il en restait par miracle, grâce à ce penchant pour la muséologie de la préhistoire qui caractérise les Cubains.
C'est que ces machines sur trépied des années 30, elles tiennent sacrément le coup.
Elles, on peut dire qu'elles ont résisté à tous les gouvernements.
Ne me demandez pas comment ça se passe pour les pièces de rechange, les ateliers de réparation et tous ces infimes détails, apparemment dénués d'importance et pourtant décisifs.
Ici, les choses fonctionnent par magie. Un point, c'est tout.
Juana est une femme de 50 ans, drôlement bien conservée, sans la moindre ride, sans la moindre patte d'oie, une vraie porte aussi lisse que l'Istellor.
C'est un véritable prodige, car il est vrai que sous nos climats, les gens ne durent guère.
On s'abîme et on pourrit en un rien de temps, sous les coups conjugués de l'humidité et de la pression hystérique, historique.
Elle est très coquette, Juana. Aussi, une fois qu'elle eut décidé de sortir affronter Terminator lui-même, au besoin pour se faire une photo, elle prit un bain de reine. Car vous la voyez se faire photographier toute cracra ?
Pas question.
Elle se frotta énergiquement tout le corps à la pierre ponce, sans désemparer, jusqu'à ressembler à une paupiette de chair à vif.
Lorsque son corps, pareil encore à celui d'une gazelle, fut sec, poudré, parfumé à l'eau de violette et d'aubépine blanche, elle enfila un pantalon pâte d'éléphant en latex des années 60.
Ce qu'il y a de bien quand on vit ici, c'est qu'on ne jette rien, et surtout pas les vêtements, recyclables par excellence.
Du coup, on a toujours des chances de bien tomber pour ce qui est de la mode du jour. Tandis que les défilés de haute couture de Paris montrent le revival des 60s, nous n'avons pas cessé de porter les chiffons de cette époque. Et la mode des années 80 arrivera jusqu'à nous au moment de son futur revival dans les défilés parisiens.
Juana boutonna son corsage de dentelle jaune, ajusté par des pinces de poitrine. Elle orna son cou d'un long collier hippie de pépites de Santa Juana, où pendait un médaillon péruvien, mis à ses oreilles des anneaux qui pouvaient servir de perchoir à une douzaine de perruches, et passa 35 bagues au doigt de ses mains et de ses pieds.
Elle sortit de sous le lit ses talons compensés de liège, quelque peu usés par 3 décennies de déambulation sur un macadam que le climat torride faisait fondre petit à petit.
Devant le miroir, constellé de chures de mouches, elle noua ses cheveux en un chignon vieux comme le monde, appelé banane, et redevenu aujourd'hui du dernier cri.
Elle s'aida d'un peigne en forme de trident pour se faire des pattes, des boucles et accroche-cœur. Elle couvrit ses paupières d'un fard doré et ses lèvres d'un orange discret.
Observant à nouveau son reflet, elle se trouva majestueuse, divine, princière et tous ses adjectifs éructés par des nœuds papillons furibards lors des soirées de danse classique, en un mot colossal, comme dit le boléro, prête pour le zoom audacieux d'un objectif délirant et pour la prunelle sans sommeil d'un photographe.
Juana saisit son sac à bandoulière de vinyle avec un drôle de nœud en guise de poignée et elle s'élança dans la chaleur aveuglante de Centro Habana en quête de son instantané, prête à commettre un meurtre pour un simple clic.
Car elle était convaincue que la chose que l'on ne peut contrarier dans la vie, ce sont les rêves. Et si elle avait rêvé qu'on la photographiait, ce n'était pas pour des prunes.
Elle s'était levée avec cette idée en tête et ce n'était pas maintenant qu'elle allait y renoncer sans raison. Jamais de la vie.
Et, par le plus grand des hasards, voilà qu'au coin de sa maison, un mec, un beau mec, l'étranger classique, était là en train de presser le bouton d'un minulta professionnel.
Et au beau milieu de la rue, Reglita, Renita et Poupi posaient face à l'objectif.
« Ce que ces enfants ont de la veine !» pensa Juana. Et elle s'enivra quelques minutes de la lumière poussiéreuse de la rue, dont le blanc nacré bleuissait au loin, là-bas, où cancanaient quelques grosses bonnes femmes.
Mais ici, près d'elle, se trouvait Renita souriante, avec sa trottinette pourvue d'une selle de vélo, ses cheveux crépus élevés en 2 petites couettes, comme les extrémités de son guidon qu'elle serrait des 2 mains.
Les yeux pleins de défis, Renita prenait une pose de jeune pute en fleurs, avec son bustier, alors qu'elle n'avait pas encore de buste, et sa jambe bien de profil, histoire de crier sur les toits.
Sachez bien que cette gamine va faire des ravages d'ici peu.
Poupi a décidé de prendre l'air sérieux pour la photo, mais il se paie déjà un petit bide en pointe, dont nous ignorons s'il est dû à des parasites ou à un goût précoce pour la bière.
N'oublions pas que sous les tropiques, on commence très tôt dans tous les domaines. On brûle sa vie.
Voyez sa mine macho, élevée dans le mal et la malveillance, prédestinée pour une inscription plus probable à l'université de la rue.
À l'arrière-plan, incognito, le décor de murs et de portes réelles, témoin d'un temps révolu, imaginé, qui fut sans doute meilleur.
« Même les flaques d'eau sont belles aujourd'hui, » pensa Juana. « Elle ne pue pas. On n'y voit pas de vermisseaux ni d'excréments humains dilués dans l'eau savonneuse. »
Le photographe termina sa prise de vue et se mit en quête d'un autre motif d'inspiration.
Juana le rejoignit et se campa devant lui, croupion en pointe.
Elle passa une langue humide sur ses grosses lèvres, tout en écarquillant les yeux à la manière de Bette Davis.
« Mais... » Il ne la remarqua pas, ou ne voulut pas la remarquer.
L'homme disparut en franchissant le seuil d'un hôtel particulier en ruine.
La cacagénaire se rasséréna en se disant que cela n'avait aucune importance. Il était encore tôt. Elle trouverait bien un autre touriste pour la prendre en photo.
D'ailleurs, selon un photographe de renom universel, dans cette ville, la meilleure lumière était celle de 5h du soir sur le Malecón.
C'est à cet endroit qu'un mortel débarqué d'ailleurs immortaliserait sa silhouette devant un océan d'argent qui étincelerait dans l'intensité du papier alu.
Et elle serait là, au cœur du cliché, telle une sirène ou une diva d'antan.
Ce qu'il peut y avoir comme glandeur, bon sang. Ils passent leur vie debout, sur leur balcon ou assis sous les porches à bavasser, comme si le temps s'était arrêté et que ces minutes désormais vides de tout contenu existentiel n'étaient plus qu'un lointain souvenir.
À l'un des balcons étaient suspendues des cordes à linge ployant sous les draps. L'éclat du jour dessinait des ombres baroques sur les tissus crasseux. L'intimité offerte aux 4 vents.
Derrière les grilles, le secret rouillant les patios inondés de fougères. À vrai dire, dans cette ville, les secrets ne durent jamais longtemps, rectifia Juanita, en dodelinant de la tête. Il est même impossible d'y garder un secret.
Nous sommes les champions de la promiscuité, de la bagarre, de l'exhibitionnisme, de la frime. Ça se voit bien sur les photos, se dit-elle, tout en remarquant que tandis qu'elle contemplait cette scène archi-connue, un autre photographe, italien d'après sa façon de baragouiner, était apparu à l'horizon.
Il captait pour l'éternité ce spectacle débordant de grossièreté et d'innocence. Il photographia un grand mulâtre, comme les touristes les adorent, torse nu, gesticulant avec une petite boulotte gélatineuse, appuyée sur une balustrade bleue ornée de fleurs en fer forgé.
« Ma parole, c'est la journée internationale des photographes !» pensa Juana. Mais nul ne lui accordait la moindre attention.
Cela lui fila le cafard. Elle qui était si sexy et mignonne aujourd'hui. Et ça ne donnait rien du tout. Aucune occasion, zéro. Aucun des camarades afflublés d'un appareil autour du cou qui pullulait dans le secteur ne l'avait remarqué.
Elle se remit à marcher en évitant le chasseur d'images banales et vulgaires, pittoresques. Elle voulut observer les rues d'un œil différent à distance pour s'en étonner, comme si elle les découvrait, afin de savoir, une bonne fois pour toutes, ce que les étrangers pouvaient bien trouver à ce pays.
D'accord. Elles étaient belles, ces rues, même si elles étaient salement amochées.
À l'image de la vie. Elles débouchaient sur l'au-delà, et leurs murs écaillés avaient tout d'un monument à la mémoire de l'Holocauste.
Des trous partout. Comme celui où apparut soudain une femme, les bigoudis couverts d'un foulard, mains entre les jambes.
Juana s'assit en attendant que quelqu'un passe pour bavarder. N'importe qui. N-I-M-P-O-R-T-E-Q-I, se répéta-t-elle. Fût-ce la grand-mère du petit chaperon rouge. Ou peut-être un photographe qui lui murmure.
« Regarde par ici, le petit oiseau va sortir, ma belle. Souris, oui, comme ça, parfait, clic !»
L'espace d'une seconde, cette âme solitaire assise devant une porte d'acier fut alors une femme belle.
Juana continua à déambuler dans l'espoir d'être ravie par un étranger qui lui fasse, à brûle-pourpoint, au moins un petit polaroïd.
Elle s'était bien éloignée de son quartier et usait à présent ses semelles hors de son territoire, sans être pour autant en terre inconnue, car Juana avait des amis de tous les côtés et n'est de plus grand trésor que l'amitié.
Les filles de son amie Lola la saluèrent d'un furtif regard en coin. Elles sont bizarres, ces petites, si affectueuses entre elles, et si énigmatique, insaisissable, farouche avec les autres. Les pauvres ne sont pas gâtés. L'une est née muette et l'autre sourde. Tandis que la troisième, qui caresse le bras de la muette, est aveugle. Quant à la jeune noire qui tient la porte, elle parle, entend et voit pour les trois autres. Ce qui est un malheur incomparable.
Cette brochette de défaut, ça ferait aussi une excellente photo, ironisa Juana malgré elle. Seigneur. « Est-ce que j'ai soif tout d'un coup ?»
Elle poussa la porte vitrée du café Floridita, le bar-restaurant préféré de ce jouisseur nommé Hemingway.
Le chasseur vint lui barrer le chemin du comptoir.
« Dis donc, ma poule, tu n'as rien à faire ici. »«
Ouais, parle pour toi, mon trésor, hein. J'ai du flouze pour payer. »
Et elle brandit sous le nez du gorille un billet de $20 tiré de son soutien-gorge.
« Je veux boire un daiquiri. C'est pas un crime, petit père ?»«
Bien sûr que non. » Si t'as de quoi payer, y a pas de lézard, mulata.
Je ne suis pas une mulâtresse, mon ange. Je suis brune. C'est du pareil au même, selon toi? Tu es aveugle ou quoi? Ce videur ne manque pas de culot. Je lui balancerai bien une baffe qui le laisserait paraplégique. Ah, laisse tomber,
se dit-elle.
C'est une photo que tu veux et pas des emmerdes.
Le daiquiri était mortellement glacé, si congelé qu'il lui assema comme un coup de machette au milieu du crâne.
Collés à la vitre de la porte, trois types reluquaient l'intérieur, furieux de ne pouvoir y être admis.
Le videur la laissa tranquille, mais resta vigilant.
Juana eut un coup de blues et elle s'enfuit vers les arcades du centre Asturiano.
Comme elle traversait la colonnade, elle aperçut, incrustée dans le sol, une signature dorée qui brillait, celle d'un certain Luis Nios, à coup sûr l'architecte des lieux.
Un cul-de-jatte octogénaire vendait des statuettes de San Lazaro à 1 dollar pièce.
En une seconde, le ciel se couvrit, devenant noir comme des pépites de pastèque. Il y eut des éclairs, du tonnerre, puis une soudaine pluie battante qui semblait prête à emporter le parc central.
L'eau qui trempait son corps lui fit du bien et lui rafraîchit les idées. La tempête dura un instant.
Lorsque Juana arriva près du Capitole, elle avait cessé, mais le ciel gardait le deuil. Elle vit Macho Manchette, son ancien flirt, qui descendait les escaliers du Capitole.
Bon Dieu, qu'est-ce qu'il avait maigri ? Et dire qu'avant il avait des muscles, en veux-tu, en voilà. Et c'est à ça précisément qu'il devait son surnom. C'était un as de la machette à l'heure de couper net la canne à sucre à la racine. Décoré de l'ordre de l'avant-garde nationale, il avait reçu un paquet de médailles qui faisait pendouiller le revers de sa veste. Il avait même décidé de faire un panneau mural de sa ferraille héroïque.
Juana fit semblant de ne pas le voir, mais il la reconnut et y mit un sifflement admiratif pour lui dire combien elle était épatante pour ses 50 berges. Juana aperçut un flash derrière elle.
Dieu du ciel! Quelqu'un était en train de prendre en photo son ex. Moche comme il était. Oh, la vie est ainsi faite. Il y a des gens qui ont du pot. Et moi qui suis si craquante, je passe inaperçue. Peut-être que personne ne me trouve photogénique. Je dois pas avoir d'aura.
Ma douce enfant, tu es à croquer. C'est incroyable, tu m'as rendu la vue. Cette femme-là est une véritable opération de la cataracte à elle toute seule. Lui lança en matière de compliments un vieillard dont les pores disparaissaient sous les croûtes de merde.
Papy, tu es si miro que je ne sais pas si je dois me sentir flattée ou insultée.
Tu sens la bonne femelle, observa-t-il en grattant sa lèvre tombante.
Ouais, tu exagères, hein, mon petit fossile. Je pue brise, le mauvais talc qu'on a par la carte de rationnement. Ah, c'est pas possible. Tu te souviens plus du talc brise? Mais alors, c'est que tu es plus vieux que la momie de Toutankhamon. Et on dirait que t'as pas pris de bain depuis ta naissance.
Le vieillard grommelait là un mélange d'injures et de mots tendres.
Juana a voulu s'évaporer, partir très loin, s'enfoncer dans la brousse, comme quand elle était petite et que ses frères la faisaient enrager.
Elle allait passer sa colère sur les broussailles et les arbres sauvages, sur les trouées hérissées du soleil, les cris d'oiseaux précieux, la symphonie des senteurs d'herbe, de goyaves, la terre retournée, de bois et de juments en sueur.
Le souvenir de ces odeurs l'entraîna jusqu'à l'arrêt du bus 58, direction Corimar. Ce n'était pas vraiment la campagne, mais cela y ressemblait.
Elle attendit 3h30, ce qui lui laissa le temps de se remémorer une foule de choses.
Elle imagina sa mère sur le seuil de leur maison del Pinar del Rio, adossée contre la poutre de bois, à un cigare aux lèvres.
Elle lui tournait le dos et ne se rendait pas compte de sa présence. Ses cheveux lui arrivaient aux reins. Elle paraissait regarder dans le lointain, les palmiers peut-être, à moins qu'elle ne contemplât la fumée de son cigare.
Elle portait un foulard, un corsage boutonné dans le dos et une ample jupe qui dissimulait à peine ses hanches chétives. Ses bras étaient nus et formaient avec ses aisselles un arc au centre de la vision imaginaire de Juana.
Si seulement elle avait eu un appareil photo à ce moment-là. Elle la grava au moins dans sa mémoire en guise de consolation.
Une fois arrivée à Corimar, elle tomba sur une horde de touristes barbares qui pointaient tout leur objectif comme des fous vers les pêcheurs du port.
Des groupes de motocycles, bandanas dans les cheveux, t-shirts avec des insignes US, faisaient le siège des abords.
Un peu plus loin, des jeunes un peu bizarres tenaient à bout de bras des drapeaux ou des draps, par pur goût de la provocation.
Un autre groupe de personnes folklore composées de religieux de tous bords ne tarda pas à faire son apparition.
Juana se maudit d'être si commune, si vulgairement anodine, si salement passe-muraille.
Elle s'en voulut de n'avoir absolument rien de folklorique et mourut d'envie de devenir anachronique.
Elle quitta toute cette engeance imprévue pour emboîter le pas du bienheureux possesseur d'un icône qui était parvenu à se faufiler dans un camp pour la jeunesse.
Les étudiants venaient de finir une séance de sport sous les yeux du photographe. Un bel adolescent s'éloignait torse nu.
Son pantalon de jogging flottant sur ses hanches laissait entrevoir l'arrêt rouge vif de fesses dorées à point. Il allait la tête basse, traînant un peu ses pieds nus. Il avait l'air crevé.
Au moment où il passa près d'une pancarte portant l'inscription « Rosé », le photographe déclencha son appareil. Une telle subtilité ravit Juana.
Ce type, d'où qu'il vienne, il sait ce qu'il fait. Il connaît son métier, pensa-t-elle. Il a du style. Ce doit être lui, mon photographe.
L'homme se dirigea vers le fond du couloir où les étudiants attendaient dans le brouhaha, leur tour pour passer à la douche. Débitée, Juana sortit en courant.
Le soleil brûlait le trottoir de gauche. Le trottoir ombragé renfermait tous les délices de l'univers.
Les passants se retournaient pour scruter Juana. Que pouvait donc bien faire cette femme en tête d'une manifestation de saltimbanques hors d'haleine, appareil au cou?
Ce qu'elle faisait? Rien d'autre que de mendier une photo, en s'humiliant au possible, dans l'espoir que quelqu'un, pris de pitié, la cadre enfin dans son viseur.
Peine perdue. Elle regagna la vieille Havane.
Je fonce au cabaret La Tropicale, pour me frotter au premier noir venu. Ah là, c'est sûr, qu'alors il se trouvera un être humain pour immortaliser ma beauté sans pareil.
Le cabaret présentait son panorama habituel. Les gens étaient en ébullition, comme à l'ordinaire. Ils se défoulaient en dansant sur la chanson de Loos Van Van, « Que Dieu me préserve ».
Il faut dire qu'ici, on a du mal à distinguer la gaieté de l'obstination. Juana examina les alentours, mais elle ne vit rien qui ressemblât de près ou de loin à un photographe.
Au bord des larmes, elle s'assit sur une chaise pliante qu'elle plaça près d'autres chaises à l'abandon.
Les danseurs formaient une ronde effrénée au rythme de « Que Dieu me préserve ».
Tandis qu'elle s'amusait à repérer le couple qui dansait le mieux, elle eut le pressentiment qu'il faudrait bientôt se retourner chez elle bredouille.
Deux grosses larmes coulèrent sur ses joues salées par l'eau de mer de Corimar. Comme il fallait s'y attendre, un noir teint en blond, transi et baraqué, s'approcha pour l'inviter à danser.
Elle fit non de la tête, alors que tout son corps disait oui. Elle sanglota.
« Excusez-moi, mon grand, mais j'ai pas les hanches à danser aujourd'hui. »
Elle s'éclipsa, honteuse et triste vers son fatal destin.
Au bord de l'océan, la fraîcheur marine lui fit retrouver la plate réalité.
Le soleil se noyait dans les profondeurs de l'océan.
L'horizon, soudain, s'empourpra.
Elle aperçut enfin le dernier photographe de sa journée. Il visait un couple.
Une fille embrassait un mec qui portait des lunettes ridicules, ringardes au possible avec la décalcomanie d'un dollar sur chaque verre.
Le type rigolait. Juana vit flamboyer ses dents en or. Elle mit le cap sur le groupe et balança au photographe.
« Dis-moi, mon petit, qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir de plus que moi, ces deux-là? Allez, prends-moi en photo, s'il te plaît. Je meurs d'envie d'avoir un instantané à moi toute seule. Je t'en prie, mon cœur. »
Le jeune homme eut un sourire soumis d'enfant devant une mère monstrueuse, en plein accès de folie.
Une mère à la fois vénérée et insupportable.
« Et pourquoi vous n'en feriez pas une de moi, madame? J'ai passé la journée à mitrailler. C'est mon premier jour ici. Et comme je suis venue tout seule, à vrai dire, je n'ai pas encore rencontré une personne qui m'inspire assez confiance pour lui prêter mon appareil. »
« Allez, file-moi ça. Et mets-toi là. Oui, oui, comme ça. Accroupe-toi sur les rochers. Ah, fais comme si tu ramassais des coquillages. Un truc bien touristique. J'appuie où? Je te préviens, hein, c'est la première fois de ma vie que je touche un ange appareil. »
L'accident survint en un clin d'œil.
En ordonnant au jeune homme de prendre la pose, Juana saisit fermement l'appareil tandis que son modèle lui donnait les instructions pour le maniement de celui-ci.
D'après lui, c'était très facile.
Voilà, clic, parfait.
Un drôle de bruit, interminable en apparence, sortit alors des entrailles du Minolta, comme la litanie métallique de quelque chose qui s'enroulerait à l'envers.
Effrayée, elle rendit l'appareil.
Ce n'est rien, il rembobine la pellicule, elle est terminée. Il fouilla dans ses poches et dans les profondeurs de son sac à dos. « Mince! C'était le dernier rouleau. J'en ai d'autres, mais ils sont à l'hôtel. »
Patatras. Juana s'effondra sur les rochers, écrasée sous le poids de ses illusions perdues.
Frustrée, cramée par le soleil, les pieds en sang, morte de faim puisqu'elle n'avait rien avalé.
Par la commissure de ses lèvres, une salive mousseuse commença à s'écouler sur le sol.
Sa tête avait heurté la pointe d'un rocher, sur la tempe même. lieu des battements de vie et de mort.
Ses yeux restèrent fixés à jamais dans le viseur.
Les rêves à Vanet sont comme ça. Il faut les prendre au sérieux, mais sans les laisser devenir une obsession.
Ils sont bénis ou maudits, à l'image des oracles.
Le bazar aux nouvelles.
Rose dans la mer.
Cela ne viendrait à l'idée à personne de semer dans le désert.
Car, comme chacun sait, le désert est stérile.
Tout au plus pourrions-nous semer des dunes de mirage.
N'allez pas croire pour autant que j'habite le Sahara, pas du tout. Je vis plutôt dans un endroit humide, sous les tropiques. Plus précisément, sur un îlot rocheux.
Ce caillot, cet îlot ou ce malheur, appelez-le comme vous voudrez, est couvert de sable d'une pointe à l'autre, d'une extrémité à l'autre, de sa triste existence.
Un sable très blanc et brûlant qui ressemble à un nuage de craie en été et à des tonnes de sel éparses balayées, soufflées sur les vagues en hiver.
Ce lieu demeure encore un peu à l'écart du monde et l'on étudie sa conversion en paradis touristique. Mais ce sont là pour l'instant que des rêves d'ingénieurs et d'architectes et bien sûr des fonctionnaires du touriste. Les plus rêveurs de tous, qui vivent à milieu de l'îlot.
Les habitants ne sont pas nombreux ici, du moins à ma connaissance. J'ai exploré tous les recoins pour arriver à la conclusion que nous ne sommes pas plus de 8 personnes adultes et 2 enfants. 2 petites filles, pour être exactes.
Nous vivons loin des continents, mais dans des conditions moins sauvages que pourrait le laisser penser le début de la description. Tout un chacun dispose d'un téléphone, d'un fax, voire d'Internet. Tous ces objets datent d'avant la troisième et dernière guerre, mais personne ou presque ne s'en sert.
Nous avons fini par nous lasser des masses d'informations qui sont tout autre chose que le savoir. Seuls les livres ne parviennent pas jusqu'à nous en raison de problèmes, dont la guerre évoquée plus haut, qui sont hors de propos.
Notre paisible société est passée directement à l'ère informatique en loupant quelques étapes intermédiaires.
Les gens d'ici ont oublié l'existence du papier et ils impriment leurs messages sur les feuilles d'un arbre appelé cocotier, qui constitue la seule vie végétale alentour.
Les deux autres formes de vie sont la vie humaine, nous, et la vie animale, aquatique et aérienne, des poissons et des oiseaux, base nutritive de notre alimentation.
Personne ne s'était jamais plaint d'être riche ou pauvre, jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de semer des roses. Moi-même, j'ignorais que c'était des roses. Je m'étais mise à genoux pour prier le ciel que la pluie tombe au moins quelques secondes.
Car la sécheresse est pratiquement pérenne. Bien que le doyen de notre communauté m'ait conté qu'en des temps reculés, les averses étaient abondantes, il existait même des phénomènes météorologiques appelés ouragans.
Lorsque j'étais agenouillée, je découvris dans une lézarde au pied du mur de la hutte de curieuses petites boules.
Semblables à des haricots transparents.
Je les posai sur la paume de ma main gauche.
On aurait dit des larmes de géants.
Instinctivement, je me mis à creuser dans la zone la plus aride de la cour.
Là où je préfère prier les dieux pour leur demander la pluie.
Je parvins à faire un trou dans le sable rendu sec et grumeleux par la fournaise. J'y introduisis les grains avant de les recouvrir de sable et d'aplanir soigneusement le monticule. Puis je crachai à plusieurs reprises sur cette tombe d'un sanglot imaginaire. Je poursuivis mes prières, puis m'efforçai d'oublier cette histoire.
Mais quand on habite comme moi un caillot, un îlot ou un malheur, appelez-le comme vous voudrez. On n'a pas grand-chose à faire et l'on accorde beaucoup d'importance à des riens. Après une nuit qui fut sans beau rêve ni cauchemar,
je courus directement au cercle de sable signalé par un ruban rouge pour arroser à nouveau ces graines en forme de grosses larmes. La gorge sèche, j'avais du mal à cracher et décidai alors de pleurer. Je fixai des yeux un point sans ciller.
jusqu'au moment où je sentis un picotement, une brûlure, et mes pupilles commencèrent à s'embuer.
Mes pleurs sans raison tombaient sur la petite bosse de sable.
Je fis de même les jours suivants.
Un matin, à ma grande surprise,
je vis une présence insolite.
Une sorte de tige émergeant du sol.
Je n'avais plus de liquide pour arroser la plante.
Car à n'en pas douter, c'était une plante. Ma plante.
J'essayais de cracher, mais manquais de salive. Je ne réussissais pas à pleurer non plus, car je n'arrivais pas à me concentrer, tant la joie qui m'envahissait était grande.
Impossible de faire pipi non plus.
Je n'avais pas envie, et je doute d'ailleurs que ce soit un bon engrais. J'eus alors une idée.
Rien de tel que la solitude pour vous donner des idées.
Je me précipitais dans la hutte et me mis à chercher une aiguille dans une botte de foin.
Littéralement, car mon seul mobilier est constitué du tas de foin sur lequel je dors et sous lequel je cache mes effets les plus précieux, mes trésors.
Je cherchais une aiguille à coudre le tabac.
Relique de l'ancienne société.
Les ciseaux de barbier.
Les premiers ongles de ma fille conservés dans un petit mouchoir de fil blanc brodé. Plié en 8.
Un récipient en aluminium qui me servait de casserole pour faire bouillir le poisson.
Un collier de faux diamants.
Et une aigle marine montée sur une bague héritée de ma grand-mère.
Des chaussons de danse trouvés sur la plage le jour même de mon 15e anniversaire. Bru, ma voisine, pensait que le ressac les avait amenés là. Il se pouvait bien, selon elle, qu'ils aient été quelques heures auparavant au pied de quelques moussaillons déguisés en danseuses, dont le bateau avait sombré corps et bien.
Les requins doivent être en train de digérer à cette heure la danseuse exotique.
Je déteste les personnes qui rient à la fin de leur phrase. Le rire doit passer en premier.
Je me sentis très triste et je gardais les chaussons comme s'ils avaient appartenu à Nijinsky. Après tout, j'avais toujours désiré être danseuse.
Voilà que j'avais enfin retrouvé mon aiguille, tout au fond du tas de foin.
Je retournai à toute vitesse auprès de ma plante.
Elle souffrait déjà de la sécheresse et paraissait moribonde.
Sans réfléchir, je me perçai l'annulaire gauche. Une goutte rouge jaillit. Je pressai la chair et mon sang se déversa sur la verdure de la tige. Je montai la garde tout le jour devant mon chef-d'œuvre.
Car c'était un prodige de faire pousser autre chose qu'un cocotier sur l'îlot. À la tombée de la nuit, il commença à brumer.
« Oh Dieu, tu m'as écouté !» m'écriai-je maintes fois, le regard plongé dans l'obscurité des cieux.
La pluie se fit drue. Il me fallut protéger ma plante.
Je ne voulais pas la perdre dans le torrent de fange formé par le sable mouillé. J'apportai des troncs pour détourner le courant.
Puis construis une chaumière minuscule autour d'elle, pour que rien ne puisse l'atteindre ni l'abattre. Il plut une semaine durant.
J'étais exténué, car dès qu'il pleut, il faut en profiter et courir remplir à ras-bord tous les récipients possibles. Je n'en avais pas beaucoup, mais j'étais parvenu à creuser en certains endroits.
Là où le sable était le plus résistant, des réservoirs improvisés où j'irais m'approvisionner à l'avenir, quand il me faudrait à nouveau atteindre la pluie.
Je m'endormis d'épuisement sur ma couche de foin. Je crois bien que je dormis 2 jours et demi. À mon réveil, je filai admirer ma plante.
Ce petit événement était devenu mon obsession, et cela m'inquiétait.
Devant tant de beauté, je n'en crus pas mes yeux.
Une fleur était née.
Une fleur incomparable.
Aux couleurs indéfinissables.
Cristal embué.
Pourpre.
Rose charnelle.
Les pétales avaient une peau de nouveau-né. Les boutons sécrétaient la lymphe de ce même bébé, dans le scintillement intense de leur rose diaphane.
Je ne pus me retenir de courir.
De hutte en hutte, répandre la nouvelle.
Mes amis, écoutez-moi. J'ai semé des graines et elles ont donné des fleurs magnifiques. Venez voir.
Incrédules, les 3 hommes et les 4 femmes s'approchèrent de ma cour.
Ils furent fascinés. Mais en même temps, ils ne pouvaient croire à un tel miracle.
Une rose sur le caillot?
Impossible.
Oui, c'était une rose. Nous avions même oublié à quoi elle pouvait ressembler.
Tout le monde me félicita. Sauf Bru.
Elle commença à ergoter sur les couleurs.
Selon elle, ce ton charnel ne convenait pas au ton respectable d'une rose. Et elle ajouta que j'avais dû me tromper en la plantant.
Ensuite, elle s'en détourna. Inutile de perdre du temps à contempler une vulgaire rose. De fait, la bêtise des roses avait été responsable de la dernière guerre qui avait anéanti notre peuple.
Oh, ne dis pas ça, Bru.
Tu te trompes. Ce sont plutôt les roses qui ont donné leur vie pour nous sauver. Elles se sont interposées entre l'ennemi et nous. On les a anéanties à coups de canon et toute la vie végétale avec, sauf les coquetiers, qui sont invincibles, comme on sait.
Pru assura que le fait d'avoir créé des roses nous porterait la poisse, et elle lança toutes sortes de malédictions contre ma fleur.
Elle la regardait de travers, les lèvres écumantes, en répétant que les roses étaient vraiment d'une médiocrité insupportable.
Et en plus, ce sont des femelles insatiables. Elles ne pensent qu'à faire des boutons, berk. C'est pas comme moi. Je pourrais vivre sans enfants, mais pas sans Internet, le fax ou le téléphone.
Il est vrai que Bru était la seule d'entre nous à passer ses journées rivées aux écrans vagabonds de son ordinateur.
Pourtant, rien d'extraordinaire n'avait plus jamais lieu dans le monde, excepté des morts et encore des morts.
Un éclair traversa les yeux de Bru avant qu'ils ne redeviennent opaques de jalousie. Je me méfiais.
Elle m'avait déjà trahi deux fois.
La première, en couchant avec l'homme que j'aimais.
La seconde, en plagiant mes poèmes érotiques.
Jusque-là, je lui avais pardonné. Mais la vie est courte, me disais-je. À quoi bon se faire des ennemis ? Jamais je n'aurais dû me réconcilier avec elle.
Quand tous furent partis, Bru resta là, à tourner autour de ma rose. Elle s'en approcha trop et lui arracha un pétale.
« Mais Bru, qu'est-ce que tu fais ?»«
Rien. Je voulais savoir si c'était une vraie. Ici, on a le plus souvent des visions. Comment as-tu réussi cette merveille ?»«
Tu n'avais pas l'air de la considérer comme ça, » répondis-je stupéfaite.
« Ne fais pas attention à mes bêtises. Donne-la-moi, je t'en prie. J'aimerais en orner mon jardin. »
« Attends, Bru, laisse-lui le temps d'avoir des enfants. Je peux pas te la donner maintenant, je la tuerai. »«
Oh, toi et tes enfants de malheur !» bougonna-t-elle en s'éloignant.
Mais Bru ne tenait plus en place.
Elle avait possédé autrefois les tulipes les plus belles de la planète, exterminées par une invasion de grosses fourmis violettes, et savait que celui qui posséderait à nouveau une fleur serait non seulement heureux, mais vénéré par les autres membres de la communauté.
Bru comprit qu'il lui fallait tramer un plan pour savoir comment je m'étais procuré les graines de rose, afin d'en obtenir d'autres, et de meilleure qualité.
Pour cela, il lui fallait, avec des airs innocents, me tirer le plus de renseignements possible, puis lâcher ses espions et semer la pagaille.
En un mot, elle s'était mise en tête de détruire ce qui m'avait coûté tant d'efforts et de ténacité.
Elle créa tout d'abord, à l'aide de son ordinateur, des roses virtuelles, plus éclatantes encore que les miennes.
Elle trouva sur Internet les noms d'experts contrôleurs de roses. Elle les consulta, mais ils lui dirent que ces roses ne semblaient pas réelles, précisément parce qu'elles étaient parfaites.
Ils allaient étudier la question avant d'émettre un jugement sur leur authenticité.
Bru passait son temps à se lamenter auprès des uns et des autres.
« Mon Dieu, j'ai pas de chance !» Personne n'aime mes roses.
En revanche, je croulais sous les commandes.
L'arrête une telle demandait une tonne de roses pour son anniversaire de mariage. Le président machin faisait l'éloge des essences de mon jardin dans ses discours.
J'eus peur, une de ces peurs démesurées et incontrôlables. Tout cela ne ferait qu'attisser le feu de l'envie.
Et il se trouva des étrangers pour mener à mon encontre une campagne calomnieuse et mensongère.
Les autres adultes de la communauté me défendaient farouchement, et jamais je ne pourrais assez les remercier.
Les petites filles, encore ignorantes de sentiments pervers, ne prenaient pas parti.
Bru s'esquivait, cloîtrée dans sa hutte, jouant les mal-aimés et m'insultant à tout va.
« C'est une fille du ruisseau. Elle est née dans un solar et elle cravera dans un solar. J'en mettrai ma main au feu, » grommelait-elle.
Je décidai alors de lui rendre visite pour lui apporter des boutures, dans l'espoir secret qu'elle me montrerait ses fausses roses.
Par superstition, elle ne les avait montrées qu'à très peu de gens, de peur d'être plagiée.
C'était d'autant plus étrange qu'elle m'avait dit un jour que je devais discuter en groupe mes méthodes de jardinage et les soumettre au jugement d'autrui, tout comme elle le faisait. Ce n'était pas vrai. À ma vue, elle baissa les yeux avec méfiance.
« Je n'ai pas besoin de tes maudits roses. Elles sont vulgaires, car elles ne cessent de se reproduire. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai déjà pris contact avec un expert en roses qui est disposé à authentifier les miennes. Il va même publier mon projet. Tu peux t'estimer heureuse de le savoir, car je n'en ai encore soufflé mot à personne, même pas à ma famille. »
« De quelle famille tu parles, Bru ?»«
Celle qui vit dans l'îlot voisin. Mes pauvres parents qui m'adorent. Hier soir, je suis sortie regarder les étoiles. J'ai fait des incantations, prononcé des noms, prié, crié. Et tout s'est réalisé. Demain, je posséderai les roses les plus recherchées de l'univers. J'espère que tu es contente. Pardonne-moi si j'ai été dure avec toi. De toute manière, je te dois le succès de mon opération. Si tu n'avais pas eu l'idée de semer des roses, je ne t'aurais probablement pas imité. Tu m'as ouvert les yeux. Tu nous as ouvert les yeux à tous. Merci, merci. Toi seule possèdes la lumière.
Chacun possède la sienne, Bru. Je lui tournai le dos abruptement et partis. Je ne croyais pas un seul mot de son discours.
Elle n'était pas sincère et devait comploter quelque chose.
Je regagnai mon jardin fleuri qui était de plus en plus vaste et parfumé.
Sa beauté grandissait à chaque aurore.
Je pouvais rester assis sur le seuil de ma hutte, des heures, des jours, des mois à le contempler. L'amour m'envahissait. Il me fallait aimer, donner ma tendresse. Je me consacrais tout entière au jardin, mais aussi à ma fille, à mon homme, à mes amis. Je débordais d'amour, mais j'avais le pressentiment que quelqu'un voulait m'empoisonner de mensonges.
Par un après-midi de soleil entre deux pluies, un policier se présenta chez moi pour vérifier si mes roses avaient été officiellement enregistrées.
Je répondis que je les avais simplement semées en donnant mon sang pour elles. Il fit grise mine, puis devint soupçonneux.
Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, madame. Il vous est reproché d'avoir créé des roses véritables en plagiant des roses artificielles dont le modèle avait été déposé au préalable. Vous comprenez ?
Je fis non de la tête, m'attendant au pire. Le pire arriva.
Bref, soit vous brûlez ce jardin tout de suite, soit vous m'accompagnez au poste pour attentat contre l'hygiène publique et la propriété sociale. Vous savez qu'il est interdit de planter des roses authentiques ici, car elles ont déjà déclenché une guerre par le passé. Après, il y a eu les tulipes, qui ont amené une invasion de grosses fourmis violettes. Vous vous souvenez ? On a failli mourir dans l'épidémie. Tout ce qui sent la fleur naturelle est interdit.
Mais dites-moi, dis-je, prise d'un doute, je ne me souviens pas de vous avoir vu auparavant. Vous êtes d'ici ?
Oui, je suis le résultat de la réalité virtuelle de votre voisine Bru. Phénoménal, n'est-ce pas ?
Alors comme ça, elle s'amuse maintenant à inventer des policiers et des lois. Ah, elle est incroyable.
Ceci n'est pas de mon ressort, madame. J'existe uniquement pour faire régner l'ordre. Et vous avez rompu l'ordre établi en enfreignant la législation en vigueur qui stipule que...
Inutile de vous fatiguer davantage. J'imagine tout ce que vous pouvez décréter et je ne suis pas idiote. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite brûler mon jardin.
Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, ce serait inhumain, je m'en charge.
Ah bah les pattes, ne touchez pas à un seul de ces pétales. Je l'ai créé et c'est à moi de le détruire. Est-ce qu'une loi s'y oppose ?
Oh, absolument pas, madame. Vous êtes dans votre droit. Au revoir, à la prochaine.
Le policier s'en alla, les yeux flamboyants de colère.
De cette même colère si souvent étranglée et travestie par Bru.
Ma fille vint s'asseoir à mes côtés sur le rebord de bois de la porte. Elle passa sa main sur mon front.
Nous étions toutes les deux brûlantes.
À court de mots convaincants, elle poussa un soupir. Elle s'efforçait visiblement de me consoler.
« Maman, j'ai tout entendu. Ne t'en fais pas. On va d'abord se couper les cheveux et après on coupe les roses. On les jette dans la mer et puis on brûle leurs racines. Et la fumée embaumera l'air pendant des jours. »
Tandis qu'elle parlait, les larmes sillonnaient ses joues.
Les amis ne tardèrent pas à arriver. Ils étaient au courant.
L'un d'eux nous raconta une belle histoire sur une version du Petit Prince. Il dit qu'il m'en faisait cadeau et que je pouvais l'écrire.
Le moment était mal choisi pour écrire des choses aussi émouvantes.
Pendant que les racines de mes roses disparaissaient dans le brasier, je me sentais tomber en cendres.
Dans la maison voisine,
Bru commença à se dessécher lentement.
Quand tout le monde s'en fut allé, la terre était une fois de plus ravagée.
Les vagues avaient emporté au plus profond de l'océan mon immense jardin.
Et j'eus une autre idée.
Dans le caillot, ce ne sont pas les idées qui manquent. Il y avait une chose que jamais personne ne pourra me détruire.
Je serai la première à la semer. Je me mis en devoir de creuser le sable meurtri, toujours avec le même soin. Je mis ma poitrine au-dessus et pressai mes seins de toutes mes forces.
Il coula d'abord des gouttes de sang, avec une douleur sans nom, puis du lait en abondance.
Il était fabuleux de voir le lait de mes seins former des centaines de ruisseaux.
Sur les bords de ceux-ci se mirent à pousser des fleurs inconnues.
Leurs boutons avaient la forme d'un mamelon.
La puissance de mes sensations me fit sangloter de bonheur.
Les fleurs étaient d'une beauté sans pareille.
Elles me permettraient en outre de nourrir les petites filles et tous les futurs enfants de la communauté.
Leur parfum ne pouvait plus m'être reproché, car elles sentaient bon le lait, ce véritable lait que nul n'avait revu depuis des siècles.
Quant à Bru, elle ne pouvait rien contre moi, car il lui aurait fallu vivre dans la chair de l'enfantement.
Or, elle était sorcière, mais non femme.
Grâce à ma dernière invention, les habitants sont à nouveau heureux.
Mais Bru est toujours à l'affût derrière ses persiennes. Elle mijote un plan infernal pour en finir avec mon nouveau jardin et envoyer au diable mes désirs.
Au fil des temps, des enfants sont nés, leurs mères les ont allaités, et quand le lait a déserté leur sein, mon jardin de mamelles les a nourris.
Maintenant, je vais pouvoir me mettre à écrire cette histoire que m'avait racontée mon amie.
Celle du petit prince qui s'était mêlé de planter des fraisiers dans un champ au nid.
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez tout ouïe, non ?
Non.